Un jour nouveau commence, un jour reçu de Dieu. Nous l'avons remis d'avance entre ses mains, tel qu'il sera. Émerveillés ensemble, émerveillés de la richesse de ses dons, nous n'avons pour seule offrande que l'accueil de son amour. Marqués du goût de vivre, du goût de vivre en lui, nous n'avons pas d'autre vivre que la fin de sa parole. Oui, un jour nouveau commence, c'est le moment favorable. La grâce et la paix nous sont données par Dieu notre Père et par Jésus-Christ notre Seigneur. Bienvenue à chacun d'entre vous pour ce culte. Bienvenue tout particulièrement à vous, les enfants de l'école biblique, à vous les jeunes du catéchisme, bienvenue à vous leurs parents. Comme les membres de la communauté de Jérusalem, nous voici donc réunis tous ensemble ce matin pour la prière, pour l'enseignement et pour la communion fraternelle. Et puis comme il y a toujours des bonnes nouvelles, j'ai appris il y a quelques minutes qu'il me revenait d'accueillir dans notre communauté une petite fille qui a été baptisée hier et qu'il est bon que maintenant elle soit présentée. Donc j'invite Julie, qui va être accompagnée de son papa, à venir au pied de la table de communion et je vais vous rejoindre.
D'ailleurs, je me suis trompé, ce n'est pas Julie, mais c'est Louise. Voilà, tu reçois un nom nouveau, c'est vraiment étrange. Voilà. Louise, tu as donc été baptisée hier après-midi, et il me revient maintenant de t'accueillir dans notre communauté, au sein de l'Église, cette famille des enfants et des amis de Dieu. On t'accueille à bras ouverts. Ta place, elle est là. Tu seras libre d'aller et venir. Nous avons la chance d'appartenir à une église où les portes sont ouvertes des deux côtés, pour entrer et pour sortir. D'ailleurs, la vie, c'est un peu comme ça. On va et on vient. En tout cas, sois sûr que tu seras toujours la bienvenue parmi nous. Et on espère qu'un jour, voilà, tu pourras, quand tu seras grande, avec les autres, professer ta foi, dire ce qui habite ton cœur, partager avec nous le repas du Seigneur, et puis ainsi vraiment appartenir à l'Église. Ce que je te propose, c'est que ensemble, Louise, avec ton papa et avec moi, on va prendre un peu possession de cet espace. On va faire, on va pas dire une procession parce que ça fait cato, mais on va dire qu'on va faire un petit cortège pour habiter la maison du Seigneur et pour que les gens te voient, qu'ils sachent que Louise fait partie de l'Église. On y va ? Allez, viens avec moi. Oh, vous comprenez qu'elle est un peu intimidée, quand même. Voilà. Voilà. Et puis on va retourner, aller dans les stalles, T'es un peu la vedette aujourd'hui. Voilà, viens, 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 viens encore un peu. tu as fait quelques pas dans ce temple. Maintenant, c'est à vous tous que je m'adresse. À vous les plus jeunes, puis à vous les adultes. Cet enfant, vous aurez mission de l'accompagner, de prier pour elle, d'être à ses côtés. Je pense tout particulièrement, bien sûr, à ses parents, pour l'aider à grandir dans la foi. Si vous êtes d'accord pour l'accompagner, je vous invite à vous lever maintenant pour que nous prions ensemble pour Louise. Seigneur, nous te confions de tout notre cœur, ensemble, Louise, qui a reçu le baptême hier, qu'elle soit comblée de tous tes dons, de tous tes biens, de toutes tes bénédictions. Amen. Allez, va dans la paix du Christ. Je vous invite à vous asseoir. C'est maintenant Myriam qui va nous conduire dans la prière d'invocation.
Seigneur notre Dieu, donne-nous un cœur pour t'aimer et des yeux pour te voir. Donne-nous des oreilles pour entendre sa voix et des lèvres pour parler de toi. Donne-nous le goût pour te savourer, l'odorat pour sentir ton parfum. Donne-nous des mains pour te toucher et des pieds pour te suivre. Fais grandir en nous le désir de vivre avec toi, aujourd'hui et demain. Amen.
Merci Myriam de nous avoir introduit dans la prière. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier spontané. Et nous allons poursuivre notre louange en chantant au psaume 36, les strophes 1 et 2. Au psaume 36, les strophes 1 et 2, dans le psautier français. Je vous invite à vous asseoir. Voilà, c'est Julie qui va nous faire entendre la volonté de Dieu.
Dans la première lettre de Jean, il est écrit « Mais bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Dieu est amour, qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Amen. »
Voilà, merci à toi, Julia, de nous avoir rappelé ces belles paroles de Jean. Et nous allons chanter le spontané. Maintenant, c'est Yaël qui va nous lire la demande de pardon.
Seigneur notre Dieu, nous attendons avec impatience le royaume de paix, mais la violence demeure dans nos vies et parfois nous ne la voyons même pas. Lorsque les autres nous font mal, trop souvent, nous cherchons d'abord à nous venger. Pardonne-nous, Seigneur, et guide-nous chaque jour pour que nous puissions connaître ta paix et en devenir des artisans. Viens changer nos cœurs, et fais-nous voir ta miséricorde. Amen.
Merci, Yaël. C'était Éléonore qui va nous faire entendre l'annonce du pardon.
Des jours viennent, dit Dieu, où je conclurai avec la communauté de mon peuple une alliance nouvelle. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos compromissions et de toutes vos idoles, je vous délivrerai. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle intact. J'ôterai le cœur pétrifié qui est dans votre poitrine et je donnerai un cœur vif. Je déposerai mon inspiration au fond de vous-même et j'insufflerai en vous mon esprit. En effet, je pardonne vos fautes et je m'en souviens plus. Je vous serai mon peuple, je serai votre Dieu, que Dieu vous mette au cœur l'assurance de son pardon. Et qu'il nous donne de marcher en sa présence. Amen.
Merci. Merci, Éléonore, de nous avoir fait entendre les paroles de Jérémie. Je vous invite à vous lever pour chanter à Dieu notre reconnaissance. et Solène maintenant va nous lire la confession de foi.
Je crois que Dieu a créé toute la vie. Il est l'amour. Il donne sens à nos vies. Il est entré dans l'histoire par des hommes, sa parole. Je crois que Jésus a vécu dans une communication totale avec Dieu. Il était habité par sa parole. Il est l'image de Dieu sur terre pour nous les hommes. Je crois que le souffle de Dieu qui habitait Jésus demeure dans chacun de nous. Je crois que nous sommes tous enfants de Dieu appelés à fraternité. Je crois au témoignage de la foi universelle. Je crois à la fécondité de la prière. Je crois que nous ressuscitons chaque jour et que nous sommes appelés à la vie éternelle. Amen.
Merci à toi, Solène.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Ce dimanche, ce sont les aventures de Jacob que nous allons suivre avec les enfants de l'éducation biblique. C'est donc le troisième patriarche après Abraham, Isaac. La vie de Jacob est également très romanesque, avec plein d'épisodes célèbres qui sont en fait très très enrichissants pour se poser des questions sur la vie. Alors on connaît l'épisode du plat de lentilles, Rebecca et Jacob qui se débrouillent pour tromper Isaac, on connaît l'échelle de Jacob, on connaît aussi le combat de Jacob avec Dieu où il va même être vainqueur. Mais pour l'instant, pour ce temps de culte, c'est un épisode qui est un peu plus développée dans cette histoire de Jacob, un peu moins connue, peut-être un peu plus curieuse. C'est un épisode qui concerne l'amour. En effet, deux sœurs aiment Jacob, Léa et Rachel. Mais lui, Jacob, il aime Rachel plus que Léa. Cette histoire, bien entendu, nous parle de nous. Elle interroge sur notre façon d'aimer, ce que c'est qu'aimer et quel amour pour vivre et pour faire vivre les autres. Si Jacob est un homme habile, ô combien, dans ses affaires, les affaires du monde, pour ce qui est d'aimer, il a des progrès à faire. Il va faire à peu près n'importe quoi. Et donc, avant de nous répartir dans trois salles de culte différents, je vais vous lire le texte qui parle de cette histoire des amours de Jacob pour Léa et Rachel. C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 29. Laban avait deux filles. Le nom de la grande était Léa et le nom de la petite Rachel. Léa avait de beaux yeux, mais Rachel avait une belle ligne et elle était belle à voir. Jacob aimait Rachel. Et il dit à Laban, « Je te servirai 7 ans pour que tu me donnes Rachel, la plus petite de tes deux filles. » Laban dit, j'aime mieux te la donner à toi plutôt que de la donner à n'importe qui, reste donc chez moi. Et Jacob servit alors 7 années pour Rachel. Ces années furent à ses yeux comme quelques jours tellement il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, maintenant donne-moi ma femme, car mon temps de service est accompli et je veux aller vers elle. Alors Laban réunit tous les gens de l'endroit, fit un festin, fit une fête, et puis le soir, il prit sa fille, en fait sa fille Léa, et l'amena vers Jacob qui alla vers elle. Mais le matin venu, il fait jour, Jacob vit que ce n'était pas Rachel, mais que c'était Léa. Alors il dit à Laban, mais qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi pendant 7 ans ? Pourquoi m'as-tu trompé ? Laban dit, dans notre pays, ça ne se fait pas de donner en mariage la petite avant la grande, la cadette avant l'aînée. Mais bon, tu travailles encore une semaine et puis nous te donnerons en plus la deuxième. Et tu feras encore 7 années de service pour acheter la deuxième fille. Jacob aimait Rachel plus que Léa. Mais l'Éternel vit que Léa était même haïe, en fait, par Jacob. Et l'Éternel rendit Léa féconde tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et elle accoucha d'un premier fils à qui elle donna le nom de Ruben, car, dit-elle, l'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant mon mari m'aimera, sans doute. Elle devint encore enceinte une deuxième fois et elle accoucha d'un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que j'étais haïe et il m'a aussi donné ce fils-là. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint enceinte une troisième fois et accoucha d'un fils. Elle lui dit, cette fois-ci, enfin, mon mari va s'attacher à moi, car je lui ai enfanté déjà 3 fils. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Et elle dit cette fois-là, je célébrerai l'Éternel. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Judas, qui veut dire louange. Et alors elle cessa d'enfanter. Rachel, elle, voyant qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, devint jalouse de sa sœur Léa. Elle dit à Jacob, « Donne-moi des fils, sinon je suis morte. » Jacob se mit en colère contre Rachel et s'écria, « Mais suis-je, moi, à la place de Dieu ? C'est lui qui a empêché ton ventre de porter du fruit. » Alors après ces histoires un peu curieuses, avant de nous poser des questions ensemble sur ce que c'est qu'aimer, eh bien je vous propose de chanter dans le petit recueil « Louange et prière » le cantique 343 « Seigneur, accorde-moi d'aimer » donc de cette prière qui va nous permettre de demander à Dieu de nous aimer véritablement. Donc les 3 strophes du cantique 343. Éternel Dieu, aide-nous à avancer. Grâce à ces témoignages anciens que nous avons dans la Bible, nous allons pouvoir réfléchir et prier afin de mieux te connaître et t'accueillir. Aide-nous à recevoir la vie qui vient de toi pour nous donner la joie de vivre et l'envie de rayonner de plein de bonnes choses. Alors les enfants vont pouvoir aller vers les salles qui sont en face. Et je vois qu'il y a des personnes qui sont debout au fond. Il y a plein de places qui vont se libérer au milieu et puis au fond du cœur, comme dirait Rodrigue. Jacob aime donc Rachel plus que Léa. Pourquoi ? Le texte nous dit en tout cas que Rachel était un vrai top modèle, ligne parfaite, si belle à voir, un ange. Jacob tombe raide dingue amoureux à l'instant même où il l'aperçoit pour la première fois, de loin, accompagnant son troupeau. C'était une bergère. Alors est-ce que c'est ça, être amoureux ? Eh bien parfois oui. Est-ce que c'est ça, aimer ? Aimer vraiment, ça peut effectivement être un élément quand même, mais c'est un peu limité comme conception de l'amour, extrêmement limité. Car oui, nous sommes un corps, et c'est donc normal que l'attrait physique compte, c'est un élément, mais l'être humain a quand même quelques autres qualités, pas tout à fait négligeables, et quelques défauts qui peuvent aussi compter, qui ne sont pas physiques. La question est de savoir de qui Jacob est-il en fait réellement amoureux quand il retient de cette fille qu'elle a une belle ligne et qu'elle est belle à voir. Il voit son physique et cela lui suffit. Elle n'est donc qu'un objet en fait pour Jacob à ce moment-là. Et qu'est-ce que Jacob aime quand il aime ainsi Rachel ? Eh bien, il aime son propre désir en fait, son désir à lui. C'est ça qu'il aime. Et c'est ça qui l'honore par son dur travail pendant 7 ans et plus, 14 ans même, pour Rachel, et puis par son impatience à coucher avec elle. Ce qu'aime Jacob, ce n'est pas en fait Rachel, c'est lui-même, c'est son propre désir. Et de Léa, que sait-on en fait à travers ce texte ? C'est plus compliqué. Léa, nous disent les traductions, avait des yeux délicats dans la traduction Colombe. Des yeux fragiles dans la seconde 21, ou des yeux doux dans la nouvelle Bible seconde. La parole de vie, elle dit qu'elle a des yeux sans expression, sympa, ou bien un regard terne dans la Français courant. La Tob, elle dit qu'elle a un regard tendre, c'est déjà mieux. Alors Chouraki, lui, dit qu'elle a des yeux mous. Cette variété d'expressions, ça révèle l'embarras des traducteurs devant le texte hébreu. Alors, ce qui est sûr en tout cas, ils sont tous d'accord, c'est qu'elle a des yeux, qu'elle a un regard. Et ça, c'est déjà une formidable qualité par rapport à l'objet sexuel qu'est Rachel pour Jacob. Un objet n'a pas de regard. Il faut surtout pas qu'il ait un regard, parce que sinon on va avoir du mal à le manipuler comme on l'entend, comme on veut, à sa guise. Et donc, Léa a un regard. Et qu'est-ce qu'a ce regard particulier de Léa ? Si les traducteurs hésitent, c'est que l'adjectif hébreu utilisé pour parler des yeux de Léa, ça ne convient pas du tout, ça ne fait pas sens. Elle a des yeux rakotes, de l'adjectif rak au pluriel, donc, qui est utilisé pour parler de quelque chose qui est doux et souple, de tendre, par exemple, comme la joue d'un bébé, par exemple. Alors on peut se dire... On pourrait dire que la joue d'un bébé est douce, tendre et un peu souple. Mais pour un œil, on ne peut pas dire ça, bien sûr. Parce que d'abord, on a rarement l'occasion de caresser un œil doudouin puis voir si c'est un peu souple. Je ne suis même pas sûr que ce soit souple un œil, ni que ça soit doux, de toute façon. Mais de toute façon, ce n'est pas la question. Puisqu'on ne peut pas comprendre ce texte comme ça. Et pourtant, c'est l'épisode clé, finalement, de savoir... Comment choisir entre Léa et Rachel ? Comment aimer l'une et aimer l'autre ? Ou aimer l'une au lieu de l'autre ? Et puis cet épisode clé de la question de l'amour au milieu de la vie de Jacob, il se condense donc dans ce point, c'est quand même délicat. Alors on ne peut pas le comprendre au sens littéral, il y a un principe général d'interprétation de l'écriture qui existe depuis 3000 ans, on l'a aussi raconté dans le Talmud. C'est que quand un passage ne fait pas sens, au point de vue littéral, au point de vue matériel, eh ben, il faut le lire au sens figuré. Mais ça, on l'apprend à l'école, en primaire. Et donc, ce texte, il faut le lire au sens figuré. Léa et Rachel, avec Jacob, sont des types de relations, des types d'amour possibles pour son conjoint, pour les autres. Et puis, la question de la fécondité ou de la stérilité de Léa et de Rachel, qui est là aussi importante, eh bien, c'est une question, c'est une métaphore, finalement. La question de ces textes n'est pas de dire pour que, comme au sens littéral, semblerait y inviter, pour qu'un couple puisse arriver à faire des enfants, au sens physique du terme, il faudrait rendre la femme malheureuse, comme l'est ici Léa, la mal-aimée. Bien sûr que non, quelle horreur, le texte ne dit pas ça. Et aucun interprète de ce passage n'a jamais compris ça, ainsi, littéralement, au pied de la lettre. La question de la fécondité ou de la stérilité ici, de Léa ou de Rachel, nous interroge en fait pas sur notre capacité à faire des enfants, c'est une autre question, mais nous interroge sur notre capacité à influer sur le monde autour de nous, à pouvoir être créatif, pour savoir si on arrive à produire quelque chose dans ce monde qui nous dépasse un petit peu. Un regard, par exemple, peut être plein de fécondité. Il peut faire apparaître la beauté de ce qui nous entoure. Il peut faire apparaître de la bonté. Il peut faire naître de la vie un simple regard. Donc Jacob, il regarde les deux sœurs, Léa et Rachel. Il fait donc attention à l'une et à l'autre. Et ça, quand même, c'est un bon début. Il n'est donc pas si nul que ce que je disais. C'est après que ça se complique. Mais il a une façon de regarder, finalement, Rachel, qui la transforme en objet. Donc là, il la transforme en objet de désir. Mais il n'y a pas que cette situation-là. Par exemple, quand on voit un pauvre, une personne démunie, par notre regard, on peut la transformer en objet de notre attention. Et donc ce regard peut être stérilisant aussi. Et alors même un geste de service, peut-être généreux, peut-être courageux, que nous pourrions porter, ne produira pas la vie, sera stérile lui aussi. Le regard de Jacob, il est ainsi sur Rachel. Par contre, Jacob, il regarde et il voit le regard de Léa. Un objet n'a pas de regard. Elle n'est pas pour lui, Léa, n'est pas pour Jacob un objet, mais elle est une personne, puisqu'elle a un regard. C'est ce que développe le philosophe Lévinas dans son insistance sur la notion de visage de l'autre. Un visage, c'est la partie de notre corps qui peut se tourner vers l'autre, ou non, qui peut regarder le regard de l'autre. Et si c'est le cas, eh bien ce sont alors deux personnalités qui se saluent, deux libertés qui rentrent en dialogue. C'est pourquoi, même si Jacob aime Rachel plus que Léa, ça veut dire qu'il a quand même une façon de regarder Léa où il l'aime un petit peu. En tout cas, cette façon de regarder Léa, elle est bien plus féconde comme façon de voir l'autre que sa façon d'aimer Rachel, même s'il a une passion pour elle. Les yeux de Léa sont donc doux, souples et tendres comme la joue d'un bébé. Qu'est-ce que cela peut nous dire sur sa façon de voir de Léa ? La douceur, ça peut évoquer la bienveillance. Le côté tendre peut évoquer la jeunesse, c'est-à-dire un regard qui peut donc grandir, qui va s'élever sans doute avec le temps comme un bébé. Normalement, ça grandit un peu tout seul. Bon, ça grandit mieux si on le nourrit bien, mais la croissance de notre regard pour mieux aimer l'autre, pour mieux aimer encore. C'est ce que l'apôtre Paul évoque dans son célèbre hymne à l'amour, qui est peut-être une des pages les plus connues de la Bible, où il développe une notion de l'amour. Et puis, il ajoute, « Lorsque j'étais enfant, j'avais une façon de voir d'enfant, mais devenu homme, j'ai évolué. De même que nous voyons aujourd'hui comme à travers un miroir un peu trouble, de façon confuse, un jour, enfin, nous verrons face à face, sans filtre. Aujourd'hui, c'est partiellement que je connais, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. C'est-à-dire qu'enfin, un jour, nous serons capables d'aimer comme nous avons été aimés par Dieu. Et en regardant le regard de Dieu sur nous et sur le monde, nous pouvons apprendre à aimer et ça peut nous aider à... Ça peut aider notre amour à grandir et à devenir plus vrai et plus fécond. Par contre, pour Jacob, Rachel est juste belle à voir. Pour lui, peu importe quelle est sa propre façon de voir le monde, de voir les autres. Tant qu'elle ne regarde pas ailleurs que sur Jacob, peu importe quel est un regard. Car ce que Jacob aime alors dans Rachel, c'est sa propre satisfaction à lui, anticipé dans son propre regard sur elle qui se suffit à lui-même. Cela me fait penser à une très subtile publicité dont le slogan était « Regardez-moi dans les yeux ». Dans les yeux, si vous voyez la publicité de laquelle je parle, l'histoire de Jacob, de Léa et de Rachel, c'est exactement ça. Ce regard à sens unique de Jacob sur Rachel est stérilisant. Rachel va s'en rendre compte, elle est plus lucide que Jacob. Puis elle le subit, ce regard. Les héros bibliques, pas plus qu'ici, sont souvent pas des exemples à suivre, en fait. La Bible n'est pas un livre moral. C'est plutôt un livre de questions à se poser. Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon, les apôtres de Jésus, l'apôtre Paul sont comme nous. Ils ont énormément à apprendre pour vivre un peu correctement, pour vivre un peu mieux leur vie. Et chacun... des épisodes de l'histoire de leur vie, chacune de leurs erreurs est un élément passionnant pour nous poser des questions et nous former nous-mêmes. Et grâce à Rachel, Jacob va progresser. Elle se rend compte de la situation où cet amour de Jacob fait d'elle une morte vivante, nous dit le texte. Alors elle est jalouse de la vitalité de sa sœur, jalouse comme Caïn peut l'être de son frère Abel. Mais heureusement, l'histoire va mieux se terminer que l'histoire de Caïn et Abel. Elle va vers Jacob et elle lui parle. Elle est pour lui sans regard. Eh bien, elle va avoir une bouche et elle va l'ouvrir. Et elle force son attention. Ça y est, enfin, Jacob parle à Rachel. Cela montre qu'elle n'est plus seulement pour lui un simple objet, mais une personne. Il y a déjà du progrès, même s'il a encore d'autres progrès à faire dans la suite, car sa réponse est nulle en fait. Sa colère contre Rachel fait pitié. Suis-je, moi, à la place de Dieu ? C'est ce qui est marqué dans bien des traductions pour la réponse de Jacob à la critique de Rachel. Parce qu'effectivement, ces traductions, elles essayent d'améliorer un peu l'image de Jacob, des héros bibliques. Alors quand, mais en fait... « Suis-je à la place de Dieu ?» dans cette traduction. Effectivement, ça passe pour de l'humilité, ça montre qu'il ne se prend pas pour Dieu, ce qui est quand même assez sage et assez fidèle. Mais littéralement, ce n'est pas ça que Jacob répond. Il répond « Suis-je, moi, en dessous de Dieu ?» Et il sous-entend que non. Alors, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, cette réponse, c'est pour ça aussi peut-être qu'ils ont arrangé un peu dans la traduction, mais c'est un mensonge en fait. Car oui, Jacob est précisément en dessous de Dieu, et Jacob le sait très bien, puisqu'un des épisodes précédents, très célèbre de sa vie, vous qui êtes catéchumène, vous l'avez sans doute entendu à l'école biblique, comme vont le faire les plus petits cet après-midi. L'épisode très célèbre de Jacob, c'est l'échelle de Jacob. Dans un songe, dans une expérience mystique, il voit comme une échelle qui est dressée au-dessus de lui, avec l'Éternel qui est au sommet de l'échelle, qui est au-dessus de lui. Donc oui, il est en dessous de Dieu. Et sur cette échelle, il y a des anges qui montent et qui descendent, avec cette promesse que Dieu sera toujours avec lui, même quand il sera loin. Donc oui, Dieu est encore au-dessus de lui, et Jacob est en dessous de Dieu. Et Rachel a tout à fait raison dans le reproche qu'elle lui fait. Il avait le droit, il avait même le devoir de prier Dieu, c'est-à-dire d'envoyer des anges vers Dieu sur l'échelle pour demander à Dieu que l'amour qui le lie à Rachel soit source de vie plutôt que de la faire mourir, en fait, de la transformer en morte vivante. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait aussi Abraham et Isaac en demandant dans leur prière que leur femme ait des enfants. Mais Jacob n'a pas cette façon-là d'aimer Rachel. Son amour pour elle n'est pas tourné vers la vie. Jacob sait très bien que la présence de Dieu ouvre à la fécondité. C'est ce qui répond aussi à Rachel. Mais c'est vrai. Mais alors bien sûr, ce n'est pas tout à fait vrai. Dans le domaine de la fécondité physique, dans ce domaine, Dieu fait ce qu'il peut et il ne peut pas tout. Et les médecins participent aussi à faire que cette espérance du couple puisse se réaliser éventuellement. Voilà. Mais par contre, il y a une fécondité sur laquelle Dieu est extrêmement efficace. Quand on l'invite à rendre vivant notre façon d'aimer et que ça soit une source de vie et non de mort. Alors finalement, les deux sœurs, Léa et Rachel, auront toutes les deux des enfants, même si Rachel aura toujours plus de mal à en faire, plus de difficultés et plus de souffrances. Mais il y a une fécondité des deux côtés, finalement. Et à la fin, Léa et Rachel s'entraident. Léa apprend à Rachel à être plus féconde et Rachel apprend à Léa de se faire mieux apprécier, peut-être aussi. L'idée, donc, que propose, à mon avis, ce texte, c'est pas de devenir bigame, mais de fusionner Léa et Rachel en une seule et vraie personne parce qu'il n'y a que souffrance à les dissocier finalement. Le corps et la personnalité, le visage de celui qu'on aime est ainsi à la fois beau pour nous à voir et puis beau dans sa façon toute personnelle que ce visage a de regarder le monde. Ce texte est ainsi une leçon sur l'amour, ou plutôt une invitation à nous questionner sur notre façon d'aimer nos proches, notre amoureux si nous en avons un, nos amis, nos collègues. Ce texte parle encore de l'amour de Dieu pour nous et de l'amour que nous pouvons avoir de Dieu, car dans la Bible tout est lié finalement. Au début de ce même livre de la Genèse, il nous est dit que le projet de Dieu est de créer l'humain à son image et à sa ressemblance, et que cela ne peut se faire que dans un travail d'équipe, Dieu et nous. Alors faire équipe avec Dieu, par l'étude, par la prière, par le dialogue avec d'autres, en regardant leur regard, c'est comme ça que nous pouvons faire équipe, et la façon dont nous aimons sera alors inspirée par ce que nous aurons reçu de la façon dont Dieu nous aime, ou en tout cas l'idée que nous nous en faisons. C'est pour ça qu'il faut affiner aussi cette notion. Dans sa vision mystique de l'échelle, Jacob a connu l'amour de Dieu pour lui sans condition, avec cette sorte d'envoi disant « avance où tu veux, comme tu veux, de toute façon je t'aimerai infiniment ». C'est la promesse que Dieu fait à Jacob à l'échelle. Alors sur quoi est basé cet amour incroyable de Dieu pour lui? Jacob n'a encore rien fait de bien sympathique, au contraire, ni de bien créatif dans l'existence. Et donc cet amour de Dieu qui est donné là à Jacob au pied de l'échelle, ça repose uniquement sur la subjectivité de Dieu qui aime Jacob tel qu'il est sans condition. Dans un certain sens, Jacob a pu se sentir aimé comme un objet ainsi. Il a pu se sentir ainsi déresponsabilisé et finalement c'est ainsi qu'il a aimé Rachel ensuite. Mais son interprétation, si c'est son interprétation de cette incroyable bienveillance de Dieu à son égard, c'était une mauvaise interprétation de l'amour de Dieu pour nous. Car même s'il n'y a pas chantage, bien sûr, dans l'amour de Dieu, dans cette bénédiction qu'il donne à Jacob, il y a un encouragement à une véritable créativité personnelle, un encouragement à avoir sa propre visée, un regard personnel sur sa propre vie, comme Léa en a un, elle, de regard. Et c'est ce qui va être développé dans la deuxième nuit torride de Jacob avec Dieu, quand il combat avec un homme qui se révèle être un ange et qui en fait est Dieu. C'est donc un combat avec l'homme que nous sommes nous-mêmes, un combat avec la parole de Dieu, un combat avec Dieu lui-même, et Jacob va être vainqueur, en fait, des trois. Il y a là une invitation, finalement, à devenir comme Léa, une invitation à reconnaître et à aimer nos proches comme ayant eux-mêmes un regard, une vision pouvant l'emporter sur la nôtre, et même sur celle de Dieu qui est prêt à tenir compte de nos projets et à forcer la bénédiction. Jacob ainsi apprend à réconcilier un amour du type Rachel et un amour du type Léa. Aimer en laissant l'autre libre, mais sans que ce soit de l'indifférence par rapport à l'autre, ce n'est pas très facile, mais dans un croisement de regards, aimer corps et âme. Mais le premier, le plus grand, le plus préférable, est d'aimer Léa plus que Rachel, contrairement à la première intuition de Jacob. Léa est une figure, en fait, de Dieu en nous. Son regard tendre, c'est celui de Dieu pour nous et pour l'humanité. Et le désespoir de Léa, c'est souvent l'effort désespéré de Dieu en nous regardant, en nous écoutant, en cherchant à entrer en relation avec nous, espérant notre attachement à lui, notre amour. Et nous sommes un peu ce Jacob arrogant, transformant les autres autour de nous en objets au service de notre bon plaisir. L'amour pour Léa est très fécond, nous dit cette histoire. Elle va avoir quatre fils qui sont tout un programme de vie, qui sont une promesse de fécondité, une promesse de bénédiction de la part de Dieu. Le premier, Ruben, c'est le fruit du regard pour celui qui est seul, mal aimé. Et c'est une promesse de Dieu pour nous. Et c'est une vocation pour nous, pour vivre dans ce monde et aimer nos proches. Le second, Siméon, c'est le fruit de l'écoute de l'autre. C'est une promesse de Dieu, un appel, une vocation pour nous dans notre façon d'aimer nos proches. Le troisième, Lévi, c'est le fruit de l'attachement à l'autre, dans une relation fidèle, tenue. C'est une promesse de Dieu et une vocation pour nous. Le quatrième, enfin, Judas couronne le tout, puisque le Judas, c'est la tribu la plus importante. Il va donner son nom au royaume et il donnera au monde le Christ, le Messie, le salut pour l'humanité. Ce quatrième fils qui couronne notre regard sur l'autre, notre amour, qui couronne notre écoute de l'autre, notre attachement à l'autre et à Dieu, c'est la louange, c'est le remerciement, c'est la parole qui met debout et qui dit son amour. Amen. Merci Alexandre pour cette belle pièce de Bach, magnifique. Et je vous propose de chanter ensemble le cantique 289, toujours dans le petit recueil Louanges et prières. Bienheureux qui t'aime, Jésus, bien suprême, source du bonheur. 289. Alors j'ai entendu dire qu'à la sortie de ce culte, eh bien, il y a les scouts aînés, les routiers, qui ont préparé une vente de gâteaux pour travailler, avancer aussi sur le budget de leur projet humanitaire. Demain soir, lundi, il y a le grec biblique pour progressant à 19h30, donc en face aux 4 rues de l'Oratoire, avec Aurore. Mardi après-midi va démarrer donc le cycle de cette année de l'étude biblique proposée par mon collègue le pasteur Richard Cadou. Donc à 14h30 aux 4 rues de l'Oratoire, le thème de l'année c'est bergers et troupeaux. Et ce jour-là, c'est Jacob faisait paître le reste du troupeau de Laban. Donc je pense que c'est aussi en rapport avec le sujet de la prédication d'aujourd'hui. Mercredi, il y a le groupe biblique œcuménique. Alors lui, c'est le soir, c'est de 20h à 21h30. Ça se passe alternativement à l'oratoire et à Saint-Eustache, avec le père Jérôme Prigent et puis moi-même, un mercredi par mois. Le thème de l'année, c'est rendre visite. Non, c'est carnet de voyage, carnet de voyage. Et ce jour-là, c'est Abraham qui voyage d'Ur en Chaldée jusqu'à Canaan. Donc Genèse 11 à 13. Alors cette rencontre de mercredi soir prochain, c'est 2 impasse Saint-Eustache, c'est l'arrière de Saint-Eustache. Si vous ne connaissez pas, il faut chercher sur votre téléphone. Jeudi soir, il y a la répétition du chœur de l'oratoire à 19h30 qui recrute, donc il faut éventuellement, si vous le désirez, demander une audition à notre chef pour préparer cette entrée. Et puis jeudi soir à 19h30, eh bien, il y a aussi Salverne, l'hébreu biblique pour débutants avec Christophe. Alors là, et pour le, si vous voulez prendre cette année d'hébreu biblique, il ne faut pas rater trop le début, parce que bientôt les débutants le seront moins. Donc voilà, donc on peut rejoindre cette fois-ci, peut-être encore la séance suivante ou la séance d'après, mais après ça sera peut-être difficile. Samedi, il y a l'hébreu biblique, découverte avec le pasteur Gilles Castelnau. Là, c'est tout niveau confondu, c'est plutôt une lecture de la Bible en hébreu, donc c'est samedi à 10h. Et puis, à 18h samedi prochain, il y a ici même un concert spirituel autour de la cantate de Jean-Sébastien Bach numéro 26, avec la Camerata Saint-Louis sous la direction de Georges Guillard, et puis une méditation au milieu par donc Richard Cadou. Et dimanche ici même, donc, c'est le culte à 10h30, comme tous les dimanches que Dieu fait, avec une prédication de Richard. Et je pense que je n'ai pas oublié trop d'annonces. Donc maintenant, c'est le moment de l'offrande. C'est vrai que nous recevons tout gratuitement de la part de Dieu. L'offrande est une façon de rendre grâce de tous les dons de Dieu dans notre existence.
Oui, donc je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. En fait, c'était de présenter pour parce qu'en fait, il y a le président de l'Atoll. C'est une association qui est effectivement importante, mais qui est un peu nouvelle pour nous. Donc, merci beaucoup, Étienne, de nous expliquer.
Oui, donc l'Atoll a été créé en fait en 2012, notamment pour la restauration du grand orgue. Et cette association donc, est une association loi 1901 qui permet de financer un certain nombre d'actions que la Pérol loi 1905 ne peut financer. Donc cette association donc, s'occupe de l'entretien de l'orgue. Une programmation musicale va être mise en place prochainement par les organistes et donc sera financée par l'Atoll. L'Atoll finance également la rénovation des chapelles petit à petit. Un grand projet à venir est la restauration de la grande sacristie, donc qui va nécessiter beaucoup de moyens et d'énergie. L'Atoll finance également les expositions que vous pouvez voir dans les deux premières chapelles du temple, donc l'affaire Callas d'un côté et une exposition sur la réforme à Paris de l'autre côté, et une exposition sur la tolérance est prévue en 2018. Voilà donc pour mettre en œuvre toutes ces actions culturelles en fait. L'Atoll a besoin de membres et de finances. La cotisation pour participer à l'Atoll est de 10 euros, donc c'est tout à fait négligeable. Et l'Assemblée générale de l'Atoll pour 2017 va se tenir le 26 novembre. Donc si vous voulez participer à l'association, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a tous les éléments sur le site internet. Je crois qu'il y a des papiers également à l'entrée. Et si vous voulez des renseignements complémentaires, je suis à votre disposition à la sortie du temple. Voilà, donc l'Assemblée générale le 26 novembre à l'issue du culte. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Je vous invite à vous unir dans la prière. Ô Seigneur, toi qui aimes le plus petit d'entre nos frères et sœurs, nous pensons devant toi, nous pensons grâce à toi souvent, à ceux qui sont pauvres, à ceux qui ne trouvent pas de travail, à ceux qui se débattent dans des démarches administratives. Nous pensons devant toi, grâce à toi, aux victimes de l'injustice, à ceux qui se battent pour leur santé, à ceux qui sont en proie au deuil. Seigneur, nous te prions pour ceux que tu nous confies, pour que nous soyons un petit peu source de vie pour eux, comme des frères et sœurs de ton Fils. Alors nous te les confions en particulier dans notre prière intime. Oui, notre Père, merci pour tout ce qu'il y a de beau dans notre vie, pour ceux qui nous aiment, pour la beauté incroyable de ce monde, pour la joie qui nous habite et pour l'avenir que tu ouvres devant nous. Unis dans une même foi en toi, en communion avec tous les frères et sœurs de toutes les églises chrétiennes de tout lieu et de tout temps, nous nous unissons dans cette prière que le Christ nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons maintenant la bénédiction qui nous est donnée de la part de Dieu, en particulier pour nous. L'Éternel te bénit et il t'accompagne, toi. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Gloire te soit rendue, ô Dieu vivant.